Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Immo et Axéo.
Merci d'être avec nous pour ce numéro de janvier 2022. On vous souhaite d'abord une très très belle année. Pour cette séquence voilà, qui augure l'année 2022, le bâtiment optimisé, c'est une émission que nous avons construite avec nos amis d'Axéo et qui donne en fait le ton de tout ce qui touche finalement à la fois la rénovation énergétique et toutes les dépendances finalement dans les classes d'actifs, hein, que ça peut être du tertiaire, de la logistique, du résidentiel. C'est comment on approche en fait ce vaste sujet. Axéo, je le rappelle, vous l'avez sur internet, qui est aussi un bureau d'études techniques et qui travaille beaucoup sur les sujets de rénovation. Et notamment, notre sujet du jour sera, si vous le voulez bien, comment sécuriser les projets d'investissement et ou de rénovation immobilier en cas de présence d'amiante. Là, ça donne tout de suite le ton du sujet. On va passer ensemble une petite vingtaine de minutes pour discuter de ce sujet hautement important avec deux spécialistes. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mathieu Rocha, directeur du développement pour Axéo Amiante. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Mathieu ?
Super bien.
Bonne année ?
Merci, bonne année,
voilà.
Mais heureux.
Hein. Voilà, une année 2022 qui commence sur des chapeaux de roue, hein, je crois savoir.
Ouais, tout à
vous
fait.
Avez beaucoup, beaucoup de boulot en ce moment. Axéo, bien sûr, un bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la gestion et la remédiation de l'amiante dans les bâtiments. Il nous fallait aussi un utilisateur, quelqu'un qui est conscient finalement de ce sujet, hein, hautement conscient, et pour cause, hein, il est le directeur technique chez Cogedim. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, et c'est une première sur Radio Immo, Benjamin Souhem. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Et on vous souhaite une belle année.
Et
vous
merci.
Aussi. Belle année possible pour Cogedim. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour parler du sujet de l'amiante. Hein, vous le savez, c'est vraiment le sujet du jour. C'est à la fois un sujet technique, mais c'est aussi un sujet de santé publique. Hein, il faut aussi le rappeler. Hein. Ça revêt aussi de beaucoup de choses. Il fut une époque où l'amiante, effectivement, se généralisait un peu partout. Et avec le développement de nos technologies, de l'amélioration des techniques de construction, on s'est rendu compte, effectivement, que c'était quelque chose qui était impactant. Et donc, on va discuter de ce sujet. Alors, juste pour faire un petit peu le pitch, je vous propose, pour qu'on puisse en parler, le décryptage des experts.
Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
Alors, pour le pitch, les projets immobiliers, investissement, rénovation sont toujours des projets très longs, hein, souvent très longs. D'ailleurs, la notion de temps long est importante dans des classes d'actifs immobiliers. C'est assez complexe, c'est difficile à appréhender d'ailleurs sur le plan économique et ça revêt justement des dimensions économiques extrêmement importantes. Il est important aussi, et vous le savez bien Mathieu, qu'il faut maîtriser l'ensemble des risques et des coûts, qui était aussi un exercice difficile, hein, bien évidemment sur le plan économique, mais aussi vital pour assurer la rentabilité et la viabilité des opérations. C'est aussi un axe extrêmement important, on le sait. La pollution des bâtiments est un sujet qui peut être très vite mettre à mal. C'est une opération. On peut avoir d'ailleurs des surprises parfois très désagréables hein, lorsqu'on fait des acquisitions. Et l'amiante est le premier de ces polluants. Elle est présente un peu partout, d'ailleurs, dans une grande majorité des bâtiments qui ont été construits avant 1997, beaucoup. Les conséquences de sa présence peuvent être majeures, critiques. Elle peut dégrader très fortement hein, la rentabilité effectivement d'un projet. Je vous propose pour ce décryptage d'experts une question un peu plus générale, si vous voulez bien, pour aborder le sujet. Comment sécuriser ces projets d'investissement ou de rénovation immobilier en cas de présence d'amiante ? Ce que je vous propose, c'est justement d'avoir un peu le regard de l'utilisateur côté Cogedim. Comment vous approchez finalement et comment vous sécurisez justement les projets d'investissement immobilier quand vous êtes en présence d'amiante ? Benjamin.
Alors, on va dire que tout part d'un point de départ. Le point de départ, c'est déjà la détection de terrains et d'opportunités dans un premier temps. Donc, c'est souvent des terrains bâtis qui sont difficiles à trouver. Et pour le coup, voilà, on va parler à des particuliers ou à des entreprises pour pouvoir acheter leur terrain bâti, que ce soit en gré à gré ou sous forme de concours. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir appréhender la nature des bâtiments et les risques qui sont associés à ces bâtiments, dont l'amiante.
Voilà. Et donc, est-ce que vous pourriez, juste pour bien illustrer le propos, nous donner un exemple ? Est-ce qu'il y a eu un exemple dans votre...
On en a quasiment quotidiennement. Quotidien. Par exemple, voilà, une industrie.
Le dernier qui vous vient à l'esprit ?
Un bâtiment industriel qu'on aimerait acheter pour faire un projet immobilier. On a besoin de connaître et d'avoir des données sur l'amiante pour pouvoir maîtriser le risque, effectivement, que ce soit d'un point de vue financier et aussi d'un point de vue délai.
Et donc, du coup, effectivement, le soutien d'un bureau d'études techniques, forcément, donne finalement la réflexion dont vous avez besoin pour sécuriser ou faire ou ne pas faire, d'ailleurs, l'opération.
Tout à fait, hein, exactement.
Donc, on voit bien que le rôle de ces études, par Axéo et l'ensemble des personnes qui interviennent dans le secteur, vient aussi pour sécuriser ou donner ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision.
Tout à fait. En fait, c'est vraiment un outil qui nous permet d'avoir une tendance sur ces terrains-là, juste pour savoir quels sont les risques. Est-ce qu'on a envie d'y aller en fonction des risques qu'on trouve ? Voilà, c'est vraiment un enjeu primordial dans un cadre vraiment en amont d'un projet, quoi.
Mathieu, clairement, alors Benjamin vient de nous le rappeler, effectivement, là on a un cas concret, hein, vous êtes sur un dossier, vous l'évaluez, et pour acter, parce qu'on parle d'investissement lourd, hein, donc on parle de dizaines de millions d'euros quand même, hein, on a besoin d'une sécurisation. Alors vous substituez pas à la décision in fine, hein, de l'investisseur, par contre vous l'éclairez. Moi ma question est très simple, c'est comment on peut, quels outils vous proposez pour maîtriser ce risque lié à l'amiante ?
Bah déjà, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que la maîtrise de l'amiante, elle réside dans la connaissance de son existence et donc de sa localisation. Or, pour savoir ça, il faut qu'on ait des diagnostics qui sont réglementés. Donc, le diagnostic étant le plus exhaustif, étant le RAD, ce qu'on appelle le repérage avant démolition. Mmh. Or, en phase d'intérêt... comme l'a souligné M. Swem, c'est rare d'avoir un repérage avant démolition. On a ce qu'on a, c'est-à-dire la documentation amiante qui est disponible dans ce qu'on appelle la data room, dans ce qu'on veut bien nous donner le vendeur. Et on part du postulat que cette information, elle est défaillante. Elle est soit d'ailleurs, soit inexistante. Ça arrive. Vous lisez rien du tout.
En fait, vous savez même pas ce qu'il y a dedans, quoi.
Ouais. Et si c'est pas existant, c'est incomplet.
Voilà, vous êtes face à un immeuble. Mm. Si vous avez un minimum d'infos, plans ou éléments du bâti, de la construction, à la limite, ça vous aide, mais c'est souvent incomplet ou défaillant, c'est ce que vous disiez. Mais ça. Des fois, il n'y a rien.
Ouais.
Et donc, c'est quoi ? C'est la surprise, quoi.
Alors, nous, on peut avoir des tendances. On fait ce qu'on appelle des analyses des risques qui sont un peu disruptives. On a mis au point un produit qu'on a appelé la due diligence amiante, qui permet justement de sécuriser l'investissement de l'investisseur ou du promoteur. Donc, alors, c'est-à-dire on vient mettre en fait un budget sur ce grand point d'interrogation qui est l'amiante.
D'accord, mais vous analysez les éléments qui permettent en fait d'évaluer, alors par exemple d'évaluer par exemple le coût de désamiantage, par exemple, dans définir les périmètres, bien évidemment, et à partir de là, dans les quantum, si on peut dire ça, dans le volume, c'est ensuite vous qui prenez la décision sur la base de ces études. C'est bien ça, Benjamin ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, justement, j'aimerais qu'on vulgarise un maximum, parce qu'effectivement, vous êtes des spécialistes, hein, bien évidemment, mais ceux qui nous écoutent ne le sont pas, et ils sont forcément touchés, hein, directement ou indirectement, par ce sujet. Mathieu, avant de commencer, qu'est-ce qu'on devrait savoir ? Voilà, vous me parlez vraiment le B.A.B.A. de chez B.A.B.A. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'amiante dans les bâtiments, par exemple ? Voilà, c'est quoi les points, les bullet points, comme on dit, qu'il faut savoir ?
On l'a dit tout à l'heure, on ne la présente plus, elle est présente partout, elle est dangereuse, interdite en 1997.
Elle est dangereuse pour la santé. Hein,
elle est dangereuse pour la santé, tout à fait. Mmh. Elle est présente dans à peu près tous les bâtiments.
Tous les bâtiments
Dans beaucoup de bâtiments et dans beaucoup de matériaux.
On avait dit avant 1997, c'était un usage régulier. Hein, on en mettait partout. Quoi.
Tout à fait. On avait partout et dans énormément de produits. Quoi.
Ouais, énormément. C'est une galère, hein, quand on y réfléchit, parce que parfois, pour déconstruire, reconstruire, enfin, c'est... Ensuite,
ce qui vient se rajouter à ça, c'est que la réglementation est très importante. Et ce qu'il y a aussi de très important sur l'amiante, c'est son coût de retrait. Donc le coût de retrait est très important et il peut mener à mal et impacter négativement le bilan d'un investisseur.
Ce qu'on appelle le coût de retrait, c'est retirer l'amiante.
D'accord,
ok. Mmh. Okay. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de tout raser, quoi ?
Avant de tout raser, il faut retirer l'amiante, justement.
Ah, parce que oui, on ne peut pas raser sans retirer l'amiante.
C'est pour ça qu'il y a des repérages avant démolition.
Ça serait beaucoup trop simple.
Ah bah, trop facile.
Oui, trop facile.
Bien sûr. Vous m'avez évoqué aussi la disparité des rapports de repérage entre une avant-vente et l'exhaustivité de ce qu'on vous appelait le RAAD. Hein, c'est ça,
le RAD. Ouais. On rappelle abusivement.
Alors, RAAD,
RAAD, repérage avant démolition. Repérage amiante avant démolition. Voilà. Il y a aussi le repérage plomb avant démolition.
Alors, Il y a un risque qui est lié à la responsabilité aussi.
Ah oui, le maître d'ouvrage est toujours responsable de son bâtiment. Or, justement, dans cette phase d'intérêt, ce qui est différent, c'est que le promoteur, l'investisseur, n'est pas encore propriétaire de son bâtiment. Donc, il n'est pas en capacité de faire le repérage.
C'est clair.
Donc, c'est là où il a besoin d'être accompagné.
Bien sûr. Et donc, l'accompagnement, du coup, vous travaillez ensemble, il est fondamental. Mais justement, Benjamin, vous êtes le donneur d'ordre. Hein, vous êtes celui qui diligentait l'étude, c'est-à-dire qui missionnait, entre guillemets, Axéo pour diligenter cette étude. Donc, c'est clair que à la fois l'état de confiance, la norme, etc., c'est quelque chose que vous prenez avec beaucoup de précautions. Quelles sont les étapes clés lors, par exemple, d'un projet immobilier d'acquisition? Est-ce que vous pouvez nous résumer cela?
Alors, en quelques mots, et je vais faire très simple, hein, tout à l'heure, on parlait de... Voilà, on trouve un terrain, un bâtiment, ouais, face à un industriel en particulier. Donc, on a dû... gré à gré ou du concours. Donc là, on est vraiment, on s'intéresse au terrain en lui-même, au bâtiment en lui-même. On essaie d'imaginer un projet dessus pour faire une proposition financière à un propriétaire foncier. Une fois qu'on a trouvé un accord avec ce propriétaire-là, en fin de compte, on va déposer des autorisations administratives, dont le permis de construire et le permis de démolir, du coup, qui va avec, par exemple. Donc ça, c'est l'étape numéro 2 qui est importante. Et l'étape numéro 3, c'est l'obtention de ce permis de construire. Avec en parallèle, on va commencer à rédiger les dossiers de consultation des entreprises pour pouvoir mener un appel d'offres. Et une fois qu'on a sécurisé tout ça, donc permis obtenu, épurgé des recours, on achète le terrain. On va chez le notaire, on achète le terrain au propriétaire, et là, il nous appartient. Et à partir de ce moment-là, on va contractualiser avec des entreprises pour faire les travaux. Et donc, on va démarrer, en général, au début, par le désamiantage et la démolition du bâtiment.
Et ça, c'est un processus relativement long.
Il peut être très long.
Exemple, le maximum que vous avez vu dans un dossier.
En termes de développement, de bout à bout,
oui.
Ça peut durer 10 ans.
10 ans ?
Ça peut durer très, très longtemps.
Ah oui,
c'est pour diverses raisons, d'ailleurs. Mais
c'est considérable. Quels sont les impacts et les risques de l'amiante lorsque on lance un projet? C'est-à-dire, je m'explique, quand vous êtes dans cette phase de désamiantage et vous prenez ce pari, est-ce que ça veut dire que les coûts, in fine, parce que vous avez un prix de sortie après, hein, parce que vous allez revendre cet immeuble ou vous allez l'exploiter, est-ce qu'il y a un impact économique, in fine? Est-ce que ça va impacter concrètement, quand vous désamiantez, qu'il y a un surcoût, il est forcément répercuté quelque part?
Oui, tout à fait. Et à ce stade-là, on va dire, quand on commence le désamiantage, les risques financiers, ils sont effectivement pour nous. Il faut se le dire, ils peuvent être de diverses... issus de différentes choses. La découverte d'amiante, de produits qu'on n'avait pas vus avant, qui ne sont pas répertoriés, par exemple, dans un rapport avant démolition, s'il n'est pas bien fait, s'il y a des diagnostics qui ne sont pas bien réalisés et pas dans les normes, on peut avoir des mauvaises surprises en trouvant des choses qu'on n'avait pas vues.
Et vous pouvez vous planter éventuellement sur la sortie, finalement, en disant, finalement, il y a quelque part, vous aviez dit, alors je vais être basique, hein, vous me corrigez hein, si je dis une bêtise, vous dites, voilà, ça vaut 10, et puis in fine, vous vous rendez compte qu'à la fin, ça vaut coup de 15, quoi. Donc du coup, vous revoyez toute votre feuille là-dessus. Est-ce que ça peut arriver? Ça vous est sans doute arrivé d'avoir des opérations finalement in fine non rentables alors qu'au départ, sur le papier, c'était plutôt bon.
Alors en réalité, ça ne m'est jamais arrivé. On a eu des mauvaises surprises, ça nous a coûté de l'argent. Ça n'a pas forcément mis en péril le projet, mais et ça aurait pu. En fait, si vraiment on l'a mal cerné depuis le début, on peut avoir des travaux de retrait d'amiante qui vont coûter plus cher que le terrain.
Waouh!
Donc,
Ah oui. Donc, on parle de coûts quand même non négligeables. Qui fait les travaux de retrait, Benjamin?
Ce sont des entreprises spécialisées dans le désamiantage et qui sont habilitées pour.
Absolument. C'est un vrai métier, ça, Mathieu?
Oui, il y a une certification, enfin plusieurs.
Une certification.
Il y a plusieurs organismes.
Oui, il y en a qui font que ça. Hein, c'est...
Ah oui, il y a des purs désamianteurs. Il y a des désamianteurs qui font aussi de la démolition parce que c'est intimement lié.
Alors, quand on a désamianté, justement, comment on sait qu'on a tout désamianté? Est-ce qu'il y a un certificat de contrôle? Est-ce qu'il y a un bureau de contrôle qui dit, voilà, c'est nickel?
Déjà, dans le meilleur des mondes, on a une maîtrise d'œuvre, un bureau d'études spécialisé comme Axéo qui suit les travaux. Ouais, et donc, qui suit la fin des travaux, hein, tout simplement. Hein. Il y a des contrôles visuels qui sont réalisés.
Bien sûr.
Alors, il y en a qui sont obligatoires, d'autres qui sont vivement conseillés. Mais dans le plus grand des cas, être accompagné d'un bureau d'études... sécuriser
ses travaux. Benjamin, vous faites systématiquement recours à un bureau d'études. Accès aussi, bien évidemment, mais systématiquement, il n'y a pas photo. Quoi. Quelle que soit l'acquisition.
Oui.
Résidentiel, technique, tertiaire, logistique.
Oui, ça, en fait, ça permet de maîtriser effectivement les risques en amont, une fois que les travaux ont démarré. Mm-hmm. C'est s'assurer que ça s'est fait vraiment dans les règles de l'art, quoi, on va dire.
C'est très clair, c'est très clair. Mathieu, je voudrais qu'on aborde maintenant une phase, si vous voulez, très pratico-pratique. Hein, c'est le but de cette émission, de donner des clés de lisibilité. On fait quoi concrètement, si on devait, qu'est-ce qui est à faire concrètement pour justement mener ces projets à terme?
En phase d'investissement?
Oui.
Alors en phase d'investissement, nous on a monté un produit qui s'appelle la due diligence amiante, qui vient s'insérer en phase de due diligence. Donc c'est la phase d'intérêt du dossier pour l'investisseur.
Ce qu'on appelle une due diligence en matière de business, c'est une marque d'intérêt.
Ouais, c'est plutôt les vérifications. Nécessaires, donc on regarde tous les documents.
Okay. Si je dis c'est quand même un peu comme un audit, j'ai une bêtise ou pas? C'est un peu comme un audit? Un audit?
Oui, moi je peux appeler ça comme ça, effectivement. Mmh. On a déjà fait.
En finance, on fait des due diligence qui sont en fait des audits préalables à toute forme d'acquisition dans une boîte ou autre. Et là, finalement, c'est une due diligence que vous appelez due diligence amiante.
C'est ça.
Donc,
elle vient pleinement s'insérer au bon moment, c'est-à-dire en phase amont. De l'investissement et nous.
Alors le process.
Le process, elle est plutôt simple. Hein, c'est une étude documentaire donc de tout ce qui est transmis par le vendeur, donc de ce qu'on appelle de la data room. Donc c'est toute la documentation amiante existante. Donc nous, on en déduit celle qui est manquante ou du moins ce qui devrait être par rapport au repérage avant démolition, si c'est un projet de démolition, ou avant travaux, si c'est des grosses rénovations. Ensuite, on fait une étude historique. Donc ça peut être via Internet, via des photos. Par exemple, il y a un outil qui est génial, qui s'appelle Remonter le temps, qui est accessible par tout le monde, où on a accès à les photos IGPN jusqu'à 2900, je crois, jusqu'à nos jours. Quoi. Donc on est capable de voir s'il y a eu des modifications dans le temps, dans les bâtiments. Tout ça, c'est des faisceaux d'indices qui nous donnent, des indices. Tout simplement, qui nous donnent des indices sur la probabilité d'amiante. Donc ensuite, on fait une visite de site, après avoir étudié ça. Et lors de cette visite de site, en fait, vu qu'on ne peut pas réaliser de repérage avant démolition, parce qu'on n'est pas propriétaire, nous, on fait ce qu'on appelle une analyse des risques, une analyse des risques de niveau de risque amiante, qui est similaire à ce qu'on fait en document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est-à-dire, c'est une fréquence fois gravité multipliée par un coefficient de pondération de surface. En fait, on arrive à un niveau de risque. Et donc, ces niveaux de risque donnent lieu à une synthèse financière des préconisations, tout simplement. Et si on reprend la méthode de document unique d'analyse des risques pour faire baisser un niveau de risque, on est obligé de faire baisser un des critères. Or, fréquence, donc c'est probabilité d'occurrence d'amiante, multiplié par gravité. La gravité, c'est l'impact d'un point de vue financier. La gravité, ça ne bouge pas. S'il y a de l'amiante et que c'est grave, la gravité ne va jamais bouger. Le coût des avantages sera le même. La surface, ça ne va pas bouger non plus. Parce que s'il y a 2000 m² de flocage, il y aura 2000 m² de flocage. Donc, dans cette analyse-là, la seule chose qui peut bouger, c'est la fréquence. C'est-à-dire, c'est l'information amiante qu'on a à disposition. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette information amiante? Il n'y a qu'une seule chose, c'est le prélèvement. Le prélèvement, savoir si c'est amianté ou pas. Donc ce qui sera fourni par la suite. Donc on peut préconiser, par exemple, de faire des analyses, mais pas forcément en adéquation avec la norme. C'est-à-dire que la norme va nous dire qu'il faut faire 6 prélèvements sur tel matériau parce qu'il y a telle surface. Nous, on va dire non, on en fait juste un seul.
Oui.
Et ça nous donne un indice.
D'accord, c'est un indicateur, bien sûr.
C'est un indicateur. Nous, on le fait payer prix coûtant. Et comme ça, ça nous donne un indice à moindre coût. Et on peut même faire mieux. On peut même utiliser le microphasier, c'est-à-dire c'est une machine qui nous donne directement savoir s'il y a de l'amiante ou pas dans le matériau. Et c'est pareil, c'est un indice. Et ça, on peut le faire dès la première visite.
D'accord.
Donc en fait, une fois qu'on a tout ça, ça nous donne un niveau de risque qu'on est capable de transformer par un budget. Et donc de sécuriser, le but c'est de sécuriser l'opération de l'investisseur ou du promoteur.
Benjamin, on a parlé de cette due diligence, vous utilisez les mêmes terminologies je suppose aussi.
Oui, tout à fait. Hein.
Alors, quand vous devez la faire, et à quel stade du projet ?
Alors, moi, j'ai envie de dire que cette phase de due diligence, il faut la faire la plus tôt possible, dans le sens où ça nous permet vraiment d'appréhender un projet et des risques qui sont associés. J'ai un exemple assez concret à donner, hein, par exemple sur des concours que l'on a. On est plein de promoteurs qui concourront sur un même terrain, on va dire, sur un même projet.
C'est vrai que parfois,
voilà, on est jamais tout seul.
Et parfois, il y a un peu de surenchère, on peut dire. Hein.
Tout à fait.
Bonjour 40, au revoir 60.
Voilà, et en parlant de ça, justement, on a de la surenchère, etc.
Eh oui, le foncier est tellement rare.
Voilà, c'est très rare. Et c'est vrai que quand on a un accord avec un propriétaire foncier, souvent, il est toujours difficile de savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des conditions
bien
sur
sûr.
L'amiante, de l'amiante, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Mm-hmm. Cette due diligence, en fait, elle nous permet aussi, d'une part, d'appréhender le risque, mm-hmm. éventuellement de le diminuer, comme on en a parlé tout à l'heure, de regarder ce qui est le plus risqué, ce qui va nous coûter le plus d'argent, d'essayer d'éliminer ces risques-là, mm-hmm. et aussi d'aller voir les propriétaires et de leur dire aussi de manière transparente, écoutez, nos camarades vous ont fait une offre à tel prix. Bon, nous, on a fait cette due diligence, on a remarqué qu'il y avait de l'amiante à cet endroit. Est-ce que vous êtes sûr que le concurrent l'a pris en compte ? C'est aussi un argument, on va dire, technique que sont capables d'entendre aussi des propriétaires quand on leur fait une offre.
Bien sûr, bien sûr.
Au-delà de la maîtrise des risques.
Alors, globalement, si on devait résumer là justement au stade, puisque on a des personnes qui nous ont posé déjà des questions, qui veulent nous poser des questions, on va passer dans la phase où on va répondre aux questions, c'est l'objet aussi de cette émission. Systématiquement, dans le compte d'exploitation, on peut dire que cette due diligence se généralise sur l'ensemble de vos acquisitions. D'accord ? Que donc, l'important, c'est d'avoir aussi le bon interlocuteur ou les bons interlocuteurs qui, d'abord, vous éclairent sur le sujet et ensuite, vous diligentez les travaux. La question que je vais vous poser, c'est qui diligente les travaux ? Avec les entreprises, justement, qui sont des entreprises, on va dire... réglementés ou ont des labels justement habilités à le faire. Est-ce que c'est vous, Axéo, qui aidez ? Est-ce que vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ?
De la maîtrise d'œuvre.
De la maîtrise d'œuvre aussi.
Maîtrise d'œuvre, oui.
Quels sont les usages chez vous, chez Cogedim, justement ?
En fait, c'est le maître d'ouvrage qui contractualise avec une entreprise.
D'accord.
Effectivement, quand on lance un appel d'offres, quand on fait un dossier de consultation des entreprises, on se fait accompagner d'une maîtrise d'œuvre compétente pour nous accompagner dans le développement et dans la conception, entre guillemets, du projet.
Bien sûr.
Et aussi dans la phase de négociation avec les entreprises et dans le suivi des travaux par la suite.
Alors, non seulement dans le suivi des travaux, mais bien évidemment, on va dire que de façon globale, dans la sécurisation de la gestion à la fois de vos actifs, mais aussi des acquisitions, et Dieu sait que c'est compliqué, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre, c'est pas évident de trouver du foncier. Je vous propose maintenant, si vous voulez bien, qu'on aborde la dernière séquence de notre émission sur la réponse aux questions qu'on nous pose. Je crois qu'on a... Est-ce qu'on a une virgule ? Oui, on a une virgule en bas... passer à cette étape, mesdames et messieurs, vous répondre, Axéo vous répond, rapport d'expert.
Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond.
J'ai une question pour vous, Mathieu. Bon, c'est normal hein, qu'on vous pose cette première question, logique, elle est systématique. En moyenne, combien coûte une étude amiante préalable pour un projet immobilier ? Ça, c'est un peu la question piège.
Ouais, je m'y attendais.
Mais bon, c'est la première question que tout le monde se pose. Hein.
Déjà, ça dépend de la précision de l'étude, de l'utilité, de la documentation qu'on a, si on peut faire une visite.
Bien sûr.
En moyenne, je dirais que ça coûte entre 3 et 5 000 euros. Maintenant, sur des gros sites industriels, on est déjà monté jusqu'à 15 000.
Ah oui, oui.
Mais après, ça dépend aussi du budget qu'a le promoteur ou l'investisseur pour réaliser cette étude. Ça m'est déjà arrivé où on me dit j'ai rien, j'ai pas grand chose. Parce que on fait un peu, des fois, on fait un peu à risque. C'est très rare, on fait qu'avec les partenaires, mais ça arrive.
D'accord. Donc, est-ce que c'est un coût important? En tant que promoteur, vous dites voilà, c'est un prix qui est correct, qui correspond à ce que vous attendez.
Oui, alors...
Donc en moyenne 5 000 euros, mais ça peut monter des fois à 10, 15 000 euros, voire peut-être plus.
Oui, alors moi, je m'occupe particulièrement de grands projets. Où là, bon, on va dire que vu l'échelle des risques, etc., c'est des choses qu'on fait de manière systématique.
D'accord.
Sur des plus petits projets, on peut se poser la question, effectivement.
Ouais.
On appréhende la chose en fonction du projet.
Alors, on nous pose une autre question. Je cherche ce qu'on appelle un AMO. Un AMO, c'est un assistant à la maîtrise d'ouvrage pour m'accompagner, comment les comparer et sur quoi être vigilant, qui veut répondre ?
Je pense que je ne serais pas objectif parce que moi, je ne cherche pas d'AMO, j'ai trouvé Axéo.
Voilà, vous avez un AMO. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré vous donner le choix. Bah oui, c'est une question pour vous, Benjamin, parce que vous en cherchez hein, parfois, donc vous êtes assisté. Comment vous faites ? Et sur quoi vous êtes vigilant ? Est-ce que vous comparez ? Quels sont les points d'intérêt qui vous font basculer parfois ?
Alors, on va dire qu'il y a quelque chose qui est quand même important, c'est effectivement de pouvoir transmettre les données qu'on a à cet AMO, déjà, qui puisse un petit peu parcourir les documents qu'on a, effectivement, et aussi d'essayer de cerner son approche. C'est-à-dire d'essayer de savoir comment il veut aborder ce projet-là. Et c'est vrai que les manières de l'aborder ne sont pas tout le temps les mêmes. Certaines peuvent mettre en doute aussi des compétences de ce que va nous raconter cet AMO. Quoi. C'est vraiment important que c'est un sujet suffisamment complexe pour que on parte pas avec n'importe qui et que cette personne ou cette entreprise ait la bonne appréciation du métier amiante. Quoi.
Je suppose qu'avec Axéo, tout va bien.
Tout va bien.
Voilà. Parce qu'effectivement, maillage territorial, il faut rappeler que Axéo couvre quasiment l'ensemble du territoire.
Couvre l'ensemble du territoire.
Que c'est un des plus gros bureaux d'études techniques français, hein, il faut aussi le rappeler. Et donc, qui a toute légitimité. Et je pense que ça sécurise à la fois vos investissements et vos démarches.
Oui, tout à fait.
On est bien d'accord là-dessus. Il est l'heure de nous quitter. Une petite conclusion, un petit tour de table rapide. Si on devait, la petite demi-heure que nous avons passée ensemble, pour éclairer le public justement sur ce sujet de l'amiante, qu'est-ce qu'on pourrait dire en quelques mots, Mathieu Rochat ?
Pour conclure, je dirais que plus on approche les sujets en amont, et plus on sécurise nos investissements, donc il faut faire appel à des bureaux d'études vraiment en phase amont et pas uniquement en phase chantier, car c'est là où on a des découvertes.
Ce que vous dites, oui, ce que vous dites est fondamental. C'est qu'en fait, pour le dire à vous qui nous écoutez, hein, quelle que soit la taille de votre projet, bien évidemment, c'est un sujet majeur, donc de bien choisir l'interlocuteur en avant-projet, avant même effectivement. Vous avez rappelé, c'est pas anodin, hein, vous dites, avant la phase de chantier. Parce que quand on est à la phase de chantier, à la limite, c'est cuit. Hein, on a déjà signé, c'est fait, etc. Donc, aide à la décision en amont pour sécuriser, justement, et que la mise en chantier soit beaucoup plus et favorablement actée et normale, si on peut dire les choses comme ça.
Ouais.
C'est le cas. Donc, le résultat, c'est axéo.fr.
Axéo.com, axéo.fr. Tout vous arrivez de toute manière.
Voilà, de toute façon, on arrive toujours sur Axéo, car tous les chemins, comme diraient certaines personnes, mènent à Axéo. Voilà. ça va faire plaisir à Jérôme Spencer, un petit clin d'œil. Benjamin, si on devait aussi résumer, de votre point de vue, vous êtes ce qu'on appelle un utilisateur, un user, comme on dit. Quels sont les points que vous pourriez dire au public qui nous écoute ?
Alors, moi, je dirais que l'amiante est vraiment un des sujets les plus compliqués à appréhender, je pense. Parce que techniquement compliqué, très normé. Donc, c'est vraiment... Et avec des enjeux considérables.
Et ça implique une formation, d'ailleurs, de votre part, en tant que directeur technique et de tous vos confrères dans d'autres entreprises.
Tout à fait. Donc, c'est un sujet qu'il ne faut absolument pas négliger pour plusieurs raisons. Un, effectivement, le coût des amiantages des terrains et des bâtiments qu'on va acheter. La maîtrise des délais, qui peut être effectivement très important et avoir un impact sur la globalité d'un projet de construction derrière. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'en qualité de maître d'ouvrage, on a certaines responsabilités vis-à-vis de l'amiante. Et donc, il faut absolument qu'on fasse les choses dans les règles.
Les choses dans les règles. Et puis, on peut dire aussi que notre fonction, qui est fonction de directeur technique, est très important dans une entreprise comme la vôtre, hein, à dimension nationale, voire même plus important. Donc du coup, un point de vigilance. Voilà, vigilance. C'était l'objet de notre séquence, c'est d'essayer d'irriguer un petit peu, de rendre un peu plus pédagogique cette approche, parce que, faut être très clair, hein, c'est une approche, quand on parle d'amiante, qui est un peu plus technique, vous l'avez rappelé, hein, difficile à appréhender, donc nécessité effectivement de s'entourer des bons experts. Toutes les informations sur axéo.fr.com, bien évidemment sur le site, hein, c'est très très clair, sur le site. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez liker, partager, commenter ce podcast. Un grand merci à vous, Mathieu Rochat. Je rappelle que vous êtes directeur développement Axéo Amiante. Voilà, ça s'est bien passé.
Super,
voilà,
merci.
On s'était vu d'ailleurs, on avait fait une très belle émission. On était sur la Riviera, au Palais des Festivals de Cannes. Voilà, on se revoit très bientôt avec...
On se voit à nouveau au MIPIM.
Absolument, et on se retrouve avec grand plaisir au prochain MIPIM qui aura lieu début mars. C'était une première sur Radio Immo, sur cette émission du bâtiment optimisé avec directeur technique de chez Cogedim, Benjamin Souhem, merci beaucoup d'être passé par les studios de Radio Immo. Vous êtes le bienvenu. On espère qu'on vous reverra justement pour nous éclairer. Vous savez que vous avez une fonction parfois un peu ingrate, vous savez, dans les grandes entreprises, où vous êtes un peu aussi, quelque part, le métronome qui dit oui ou qui dit non, vous savez, dans des opérations. Et je pense que parfois, vous devez être sacrement challengé dans votre métier.
Toujours.
C'est clair. Mais finalement, ça crée de l'adrénaline.
Il nous plaît.
Et c'est ce qui vous plaît, sans aucun doute. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro du Bâtiment Optimisé.
Le Bâtiment Optimisé, une émission coproduite par Radio Immo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.